Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct avec le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un Grenelle sur la violence des mineurs. Annonce hier soir d'Emmanuel Macron, discours ce matin de Gabriel Attal. On repart dans la concertation, déplore associations et parents d'élèves ce matin, vous allez les entendre. La conférence polémique sur la Palestine de Jean-Luc Mélenchon aura bien lieu ce jeudi à Lille, initialement prévue à l'université, mais elle a été annulée.
Oui, les insoumis qui crient à la censure, cette interdiction risque de créer un précédent. C'est le parti pris de l'essayiste Mathieu Slama, il est mon invité juste après le journal.
Et puis le foot après à Paris, Marseille et Lille jouent leur avenir européen ce soir en Coupe d'Europe. Marseille-Benfica, Lille-Aston Villa sur RMC et un accueil houleux pour Emiliano Martinez. Souvenez-vous, c'est le gardien de l'Argentine à la Coupe du Monde.
Déjà des réactions à l'annonce d'Emmanuel Macron qui veut une grande concertation sur la violence des mineurs.
Oui, un Grenelle dans la foulée des récentes affaires à Montpellier, Romans-sur-Isère, Viry-Châtillon, où sera d'ailleurs le Premier ministre Gabriel Attal pour un discours sur l'autorité. L'idée en fait du président face à ce qu'il appelle le processus de décivilisation, eh bien, c'est d'associer les maires, les associations, les enseignants, aussi les parents qui réagissent déjà ce matin, Nicolas Trénaud.
L'association de parents d'élèves, la PEP, salue cette initiative. Le porte-parole de la fédération, Laurent Zamekowski, espère être convié à cette grande concertation.
C'est une bonne chose, et surtout dès le moment où les parents d'élèves sont associés à cette question pour régler peut-être les problèmes qu'on a laisser traîner.
Il espère que cette sorte de Grenelle ne sera pas uniquement centrée sur le volet répressif, comme Mohamed Benmedour, éducateur dans les quartiers les plus sensibles de Marseille, qui aimerait que personne ne soit oublié.
Des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, des associations sportives de quartier,
ça permet d'être au plus proche de la réalité du terrain. Ça s'est jamais fait au cœur des quartiers.
Tous attendent des actes concrets pour éviter que se répètent les violences de l'année dernière, avec de très jeunes adolescents impliqués. Le maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, estime d'ailleurs qu'il n'y a plus le temps de débattre.
Ça fait bientôt un an qu'on a eu les émeutes, qu'on en parle. On a concerté les maires, on a fait des grands messes. Et là, on repart dans la concertation. Mais à un moment, il faut quand même décider.
Ce maire rappelle qu'une commission du Sénat sur les émeutes a déjà mené des consultations et remis 25 propositions la semaine dernière.
Et nouvelle affaire de violence. À Marseille, cette fois, une mère et sa fille en garde à vue depuis hier après avoir frappé, c'était en début de semaine, lundi, une directrice d'école marseillaise du 11e arrondissement. Pourquoi ? Pour un différend à propos d'une autorisation parentale pour une sortie scolaire. Ce matin, sur RMC, Thierry Pajol, secrétaire général du syndicat et directeur d'école, a donné des nouvelles de la directrice qui s'est vue prescrire 5 jours d'ITT.
Elle est choquée, elle est chez elle. Ça n'empêche pas de travailler, de veiller à la bonne gestion de son école à distance. Mais je peux vous dire qu'hier après-midi, notre collègue était choqué de ce qui s'était passé en début de semaine. La violence face à un directeur d'école, une directrice, on n'est pas préparé à cela. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce sont des parents qui réagissent à une chose qui ne leur plaît pas. Mais comment se préparer à l'avance? Ça peut arriver à tout instant.
Et voilà dans quel contexte le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné cette nuit l'instauration d'un couvre-feu à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour les mineurs pendant 2 mois pour lutter contre une flambée de la délinquance sur place. Une nouvelle opération Place Nette a été lancée. À Lille, c'est donc une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine qui fait polémique. Elle était prévue à l'université. Aujourd'hui, elle a été annulée. Des raisons de sécurité sont avancées. Les insoumis ont trouvé une salle pour tenir quand même cette conférence selon nos informations à RMC. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui est l'invité de RMC ce matin à 8h30, dénonce des relents antisionistes. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu, écoutez.
Ils mentent. Ils savent que nous n'avions pas prévu de faire une conférence qui fût une conférence raciste, parce que l'antisémitisme est du racisme. Et ils savent que nous ne sommes pas des racistes. Ils le savent. Ils s'y mettent tous. Le président de la région, la main sur le cœur, disant « Il ne faut pas laisser les antisémites entrer ni à Lille, ni nulle part dans le pays, dans les universités françaises. » Tu es bête. Tu es borné. Tu es obtus. Tu dis n'importe quoi.
Il est 8h05 ce matin sur RMC. On est le 18 avril et l'alerte incendie est déjà à son niveau le plus élevé dans les Pyrénées-Orientales. Risque de 4 sur 5, voire 5 sur 5 par endroit. C'est très tôt dans l'année. Conséquence du manque de pluie, la sécheresse dans ce département et de la tramontane qui souffle dans les Pyrénées-Orientales. 160 pompiers sont déjà en alerte. C'est inquiétant, dit ce matin sur RMC Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Les risques sont présents de plus en plus tôt dans l'année, c'est une certitude. Il y a un niveau de sécheresse assez élevé, le plus tôt possible dans la saison, avec de nombreux départs de feu. Cela veut dire que aujourd'hui, ce n'est pas uniquement en période estivale que les incendies se déclenchent, c'est aussi en période hivernale. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France fait appel à la plus grande vigilance à la population, pas simplement pour la période estivale, mais du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national tout au long de l'année qui est touché par le risque d'incendie.
Le soleil est revenu ce matin à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où il est tombé l'équivalent de 2 ans de pluie en seulement 24 heures cette semaine. Des pluies torrentielles qui ont touché toute la région, faisant 19 morts par exemple à Oman, avec des images absolument impressionnantes à Dubaï, à Léonie Guilbault.
Des trombes d'eau en plein désert.
C'est pas le Dubaï qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'était un peu un cauchemar.
Un vrai déluge, il fait nuit en plein jour, des éclairs frappent les buildings et les orages se succèdent. Les centres commerciaux, le métro, les routes, tout est inondé. Dans l'immeuble de Léa Marie, influenceuse française à Dubaï, l'eau s'infiltre partout.
Il y avait quand même des écoulements d'eau par le plafond, coupure d'électricité, donc pas d'ascenseur. Quand on va sur la route, c'est l'apocalypse. Il y a des voitures en sens inverse, il y a plus d'un mètre d'eau, donc il y a des voitures bloquées, il y a des voitures sous l'eau. Et les dégâts, ils sont incroyables. Je suis restée bloqué chez moi pendant 2 jours.
L'équivalent de 2 ans de précipitations tombées en 24 heures, un phénomène très rare dans le golfe Persique, selon Patrick Marlière, météorologue, et un responsable pour tout ce chaos, le phénomène de la goutte froide.
Ces gouttes froides permettent à des nuages d'orage de se développer de façon gigantesque. L'air chaud près du sol et sur les mers et les océans et de l'air très froid en altitude. Donc la masse volumineuse de ces nuages d'orage était très impressionnante. Les quantités d'eau qu'elle contenait était très important.
Pour Patrick Marlière, c'est le réchauffement climatique qui accentue ces phénomènes météo extrêmes.
La flamme olympique poursuit son périple en Grèce, en Crète et en Dodécanèse aujourd'hui. C'est le 12 juillet qu'on connaîtra, que se seront dévoilés les noms des porte-drapeaux de la délégation française pour la cérémonie d'ouverture. Le foot, Marseille et Lille jouent leur avenir européen ce soir. Marseille, 21h sur RMC contre Benfica en quart de finale de Ligue Europa. C'est le retour après la défaite de 1 à l'aller. Et Lille, 18h45 sur RMC. En clair, sur RMC, découverte aussi à la télé contre Aston Villa, quart de Conference League, défaite 2-1 à l'aller chez les Anglais, qui ont pour gardien l'Argentin Emiliano Martinez. Vous vous souvenez, c'est le bourreau des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar. Il y aura un comité d'accueil d'ailleurs ce soir à Lille, Jean Baumel.
Oui, ils seront un peu moins de 50 000 comme Lucas et Franck à attendre l'apparition du gardien de l'Argentine, Emiliano Martinez, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.
On va lui faire un accueil très très chaud à la Lilloise. Des chants hostiles avec des noms d'oiseaux. Puis tous les drapeaux français qui seront dans le stade pour lui rappeler au bon souvenir de l'équipe de France.
Je sais pas s'il est prêt à ce qu'on va lui mettre, mais on va le pourrir jusqu'au bout. Des gestes obscènes, des insultes dans sa langue.
Pour d'autres supporters comme François, chambrer le gardien Aston Villa pourrait au contraire le galvaniser.
Je suis pas persuadé que les cris et les sifflets vont pas le nourrir. Autant se concentrer sur l'équipe, mais on pourra pas échapper. Comme disait quelqu'un, on n'a pas envie de le siffler parce que ça va le renforcer, mais on va le faire quand même.
Sur le terrain, Emiliano Martinez a joué un rôle important au match aller en repoussant les assauts lillois, l'attaquant Jonathan David.
Il a fait des arrêts décisifs, c'est un très bon gardien, on le sait tous. Après, il a fait des très bonnes compétitions récemment et tout le monde s'en souvient.
Le LOSC espère venger les Bleus en éliminant Emiliano Martinez et se qualifier pour la première fois de son histoire en demi-finale d'une Coupe d'Europe.
Et puis Paris, Dortmund, Real, Bayern, voilà les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Real et le Bayern qui sont qualifiés hier soir. On a le programme. Paris jouera à Dortmund au match aller le mercredi 1er mai et à Paris au match retour le mardi 7 mai. Vous avez noté, Charles ?
C'est parfaitement noté, oui, j'y serai évidemment. Merci Quentin pour ce journal. Et puis tiens, à 8h09, un mot sur les audiences médiamétrie de la radio. Ça vient de tomber à l'instant pour la période janvier-mars. Vous savez, c'est toujours un peu... C'est important pour nous, c'est un peu notre bulletin de notes, ça vient récompenser notre travail. Et un grand merci surtout à vous, auditeurs d'RMC, parce qu'RMC progresse encore. Vous êtes 16 000 de plus à nous écouter tous les jours. 3 200 000 auditeurs au total pour RMC, c'est votre radio. Vous êtes chez vous, on est tous ensemble le matin, toute la journée sur RMC. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à le faire savoir autour de vous. Et puis merci encore pour votre fidélité. Vous êtes notamment de plus en plus fidèles au rendez-vous du face-à-face à 8h30 tous les matins sur RMC et BFM TV. Ce matin, c'est Neyla Latrousse qui nous rejoint. Bonjour Neyla.
Bonjour.
Et tout à l'heure, vous recevez le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Oui, avec qui on reviendra évidemment sur les annonces attendues en termes de violences commises par des mineurs, avec encore ce drame dans la région de Xavier Bertrand à Grande-Synthe. Ce jeune Philippe, 22 ans, passé à tabac, battu à mort. Et puis, On évoquera aussi son combat contre la France insoumise. Xavier Bertrand, il faisait partie de ceux qui réclamaient l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'université Lille 3. Il a obtenu gain de cause. Est-ce que c'est une défaite pour le coup pour la liberté d'expression? On lui posera la question.
Et bien les réponses de Xavier Bertrand, 8h30 donc sur RMC et BFM TV pour le face-à-face.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et justement, cette interdiction de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'université de Lille, on va en parler tout de suite dans le parti pris avec vous, Mathieu Slama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, loin de partager les positions de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien, et pourtant, l'interdiction de cette conférence vous choque, c'est votre parti pris, vous le défendez tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
Il est 8h15, vous êtes bien sur RMC et RMC Story.
Le parti pris.
Bonjour Mathieu Slama. Essayiste, classé à gauche, on peut le dire. Merci d'être avec nous ce matin pour défendre votre parti pris. Vous estimez que Jean-Luc Mélenchon aurait dû pouvoir tenir une conférence ce soir à l'université de Lille en compagnie de la très polémique numéro 7 de la liste insoumise aux européennes, la militante franco-palestinienne Rima Hassan. Conférence annulée hier par l'université pour raison de sécurité. Mais pour vous, cette décision est une erreur?
Ah, bon, pour moi, c'est une grave erreur et une très mauvaise nouvelle pour la démocratie. Alors, je suis de ceux qui, comme le député socialiste Jérôme Guesch, qui ont été choqués par le logo de l'association de cette université libre palestine.
Alors, je vais préciser, l'association qui a organisé la conférence a un logo sur lequel il est écrit libre Palestine, avec en fait une carte sur laquelle on ne voit qu'un seul État, et donc cette association est accusée de nier l'existence d'Israël.
Voilà, il y a une vraie ambiguïté de ce logo, et moi-même j'ai été choqué par cela, mais néanmoins ça ne justifie pas, selon moi, l'annulation d'une conférence qui a été voulue par les étudiants, certains étudiants en tout cas de cette université, validée au départ par l'université, puis l'université est revenue derrière sur sa décision, en faisant état de pression quand même dans son communiqué.
Oui,
l'université
mais parce
dit,
que
il y a eu des pressions et nous devons collectivement réfléchir aux conséquences de certaines paroles autour de ce type d'événement. Et je crois que c'est ça qui est important de dire quand même, c'est que il y a eu derrière cette annulation quand même un certain nombre de pressions. Et finalement, une liberté qui est fondamentale, qui est quand même la liberté de réunion et puis la liberté d'expression, qui en plus au sein d'une université, c'est une liberté qui est d'autant plus importante dans une démocratie. Eh bien, je considère que, en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle qu'il y ait une sorte, alors je ne sais pas si on peut parler de censure, mais en tout cas, une atteinte manifeste à la liberté d'expression. Je rappelle que tant que des paroles ne vont pas contre la loi, elles doivent être autorisées de s'exprimer, et en l'occurrence, surtout sur un sujet comme celui-là, il me semble que cette conférence aurait dû avoir
lieu. La censure, les pressions, vous pensez à Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui sera dans quelques minutes sur RMC.
Xavier Bertrand qui a demandé cette annulation, et puis après il y a eu d'autres paroles, la députée Spilibou également. Renaissance, voilà. Et puis il y a eu aussi le RN. Sébastien Chenu qui s'est exprimé contre cette conférence. Donc il y a eu quand même beaucoup de paroles politiques contre la tenue de cette conférence, et l'université, encore une fois, c'est un lieu de liberté. Ça qui est très important, c'est un lieu de liberté.
Il faut pouvoir assurer le calme, la sérénité. J'aimerais préciser que cette conférence, elle va avoir lieu ce soir, mais ailleurs. Selon nos infos, les Insoumis ont trouvé une salle pour tenir cette conférence, un local dans le sud de la ville, tout proche de la permanence du député Adrien Quatennens. Donc finalement, les Insoumis crient à la censure, mais ils pourront bien s'exprimer. Le problème, en fait, c'était le lieu, l'université. Oui, mais... les Insoumis sont accusés, en fait, de chercher à instrumentaliser la jeunesse, de cibler notamment l'électorat musulman, de miser sur la cause palestinienne dans cette campagne européenne. Il y a une volonté d'enflammer le débat avec cette conférence à l'université sur ce sujet.
Oui, mais encore une fois, c'est une association étudiante qui est des invités, et c'est une liberté fondamentale au sein de l'université, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas être dupe aussi de l'instrumentalisation politique autour de ça. LFI est éminemment critiquable, notamment depuis le 7 octobre, avec des outrances que moi-même j'ai condamnées à plusieurs reprises. Mais enfin, il y a aussi une volonté de diaboliser ce parti de manière récurrente, et c'est le jeu politique, évidemment. Et ça aussi, il faut voir de quelle manière ça joue dans cette annulation et dans la manière dont tout ça est instrumentalisé. Je dis une chose qui est très importante, c'est que il faut faire attention. Dans notre pays, le danger qui nous menace le plus, c'est l'extrême droite. Voilà, c'est l'extrême droite. Et c'est important, dans ce contexte-là, de monter l'extrême droite, de faire attention à ce type de censure, parce que moi, je pense que ça fait le jeu de l'extrême droite au final.
Voilà. Mathieu Slama, merci, essayiste. Merci d'être venu défendre votre parti pris ce matin sur RMC. Vous dénoncez une censure contre-productive avec l'annulation de cette conférence ce soir à l'université, mais conférence qui aura bien lieu ailleurs, dans une salle pas très loin à Lille ce soir. Et puis je rappelle que Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, vous répondra quelque part dans un quart d'heure maintenant sur RMC en direct, dans le face-à-face, 8h19. Arnaud de Manche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Ouais, salut Arnaud.
On vit d'ailleurs aujourd'hui un nouvel événement événementiel qui fait l'événement. Gabriel Attal est l'invité d'Apolline, mais alors ce sera ce soir sur BFM. Et donc, Apolline, on l'arrête plus, hein. Le président Emmanuel Macron lundi, le futur président Jordan Bardella hier, le Premier ministre ce soir. Demain, sachez que le pape sera l'invité de RMC pour parler Proche-Orient, affrontements religieux, mais également des résultats de la Lazio de Rome. Et lundi, Apolline sera en direct de l'EHPAD Orpea de Washington pour une interview de Joe Biden exclusive juste avant la sieste. Alors aujourd'hui, Gabriel Attal est à Matignon depuis 100 jours. Déjà, oh, le temps passe tellement vite quand on passe des bons moments. Et il a déjà des cheveux blancs. Hein. Il commence son Édouard Philippisation, qui lui aussi avait commencé à se décolorer à Matignon. Vous vous souvenez, je regardais CNews hier, ils en parlaient. Et chez Pascal Pro, il disait, vous vous souvenez de la période où Édouard Philippe avait juste deux petites toches dans la barbe là. Il avait un tout petit peu de blinde, un tous noir. Oui, effectivement, on aurait dit l'équipe de France. C'est CNews, hein, c'est pas moi. Il y a 100 jours, avec Attal, on avait l'impression de voir un post-ado arriver à Matignon. Après 100 jours, on dirait un vieil ado, genre Laurent Romeshko, vous savez, le présentateur des chiffres et des lettres, l'homme qui ne vieillit jamais. Dans 100 jours, c'est le sosie de Jack Lang, Attal. Matignon, c'est l'inverse d'un chirurgien esthétique, c'est un accélérateur du vieillissement. Alors, il se murmure que Macron est un peu énervé contre le Premier ministre. Il lui reproche de ne pas être assez investi pour les européennes. Il ne soutient pas assez la tête de liste Valérie Ayer. Alors, Attal, il a dit, oui, moi, je veux bien soutenir Valérie Ayer. Mais c'est qui, Valérie Ayer? Parce que c'est quand même une inconnue. Et alors, attention, hein, Valérie Ayer est inconnue, c'est pas parce qu'elle a manqué d'opportunités pour être connue. C'est juste que les gens qui l'ont connue n'ont pas jugé intéressant d'en parler. C'est pas tout à fait pareil. Gabriel Attal, il devait ringardiser Jordan Bardella et faire progresser Valérie Ayer, mais bon, c'est un peu lui demander de ringardiser Lady Gaga en faisant venir Mireille Mathieu sur un plateau. Quoi. Et alors la suite s'annonce compliquée, c'est morose. Vous voulez que je vous donne un indice très parlant pour illustrer la morosité chez Emmanuel Macron ? C'est vrai, l'Élysée vient de passer une commande de 11 000 bouteilles de champagne. On a besoin de se détendre pour oublier. Hein. La presse nous apprend que les stocks sont mis à mal par le grand nombre de cocktails organisés par l'Élysée. Ça sent le gars qui est obligé de bourrer la gueule aux autres. Hein. Ces réformes, il ne va plus les faire passer que comme ça maintenant. C'est le nouveau 49-3. Parce que je suis sûr que Macron lui-même ne boit pas d'alcool. Il a trop la tête du gars qui met sa main au-dessus de son verre quand on lui propose sur serre. Non, demain j'ai footing. Non, je pense qu'il bourre la gueule aux autres. Il va recevoir Ciotti. Allez Eric, je suis sûr qu'on va trouver un terrain d'entente sur le budget. Jamais de la vie, monsieur le président. Non, attends Eric, on va discuter de tout ça autour d'un verre. Tiens, prends-en même deux, il est très bon. Bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a des trucs intéressants dans cette... très bien, buvons un coup à la progression de ce dialogue. Oui, trinquons à l'article 2. Et hop, comme ça peut passer.
À consommer évidemment avec...
Avec modération.
Évidemment, avec modération. Les jumeaux siamois les plus âgés du monde, Laurie et Georges Chappelle, sont décédés à l'âge de 62 ans.
Oui, alors ils sont décédés.
Oui, just the two of us, d'accord.
Ils sont décédés le même jour, heureusement pour eux. Alors c'était des jumeaux craniopages. Vous savez ce que c'est au lieu de ricaner, des jumeaux craniopages. Donc c'est deux personnes indépendantes, deux corps, deux têtes, mais raccordées par un morceau du crâne. C'est comme si Sébastien et Solène en face de moi étaient raccordés.
Fusion.
Donc, Laurie et Georges partageaient 30% de leur cerveau, comme les chroniqueurs de TPMP. Et en plus, ils n'étaient pas raccordés dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui regardait au nord pendant que l'autre regardait au sud. Quand il y en a un qui avance, l'autre y recule, si vous voulez. Il y a un champion de moonwalk dans les deux. Là où cette histoire est encore plus intéressante, c'est qu'ils sont nés jumelles, Laurie et Dory, et il y en a une qui s'est annoncée transgenre en 2007. En cours de route, Dory est devenue Georges. C'est des transgenres siamois. On n'en croise pas souvent. C'est la seule recherche quand tu tapes dans YouPorn, là le site te dit, désolé, j'ai pas. J'ai beaucoup de trucs, mais ça c'est pas fourni. Alors on apprend dans la presse que Georges était lève tôt, alors que Laurie a été plus adepte des grasses matinées. Déjà quand t'es en couple, c'est pas pratique. Mais alors siamois, comment tu fais?
Je suis désolé.
Et comment tu fais? Celui qui se lève tôt, il trimballe l'autre dans une brouette avec des coussins. Comment il se débrouille? Ça doit être un enfer en plus si les deux ont des opinions très différentes. Vous imaginez, Charles? Charles, si votre frère Siamois était supporter de l'OM et s'il était sur une radio concurrente toute la journée, il supporte l'OM et il est animateur sur Sud Radio. Vous imaginez si votre Siamois c'était Jean-Jacques Bourdin, une drôle de vie quand même. Alors en 2011, Laurie racontait au Sun la gestion de sa vie amoureuse. Elle disait « Quand j'allais à des rencarts, Georges apportait des livres à lire. J'adorerais rencontrer le mec. » Il y a une vie amoureuse avec une siamoise qui ramène son frère transgenre qui coquine à côté. C'est un super scénario de film français. On voit déjà Vincent Lindon draguer Léa Seydoux qui est accrochée par le crâne à Danny Boone. Et elle embrasse Vincent Lindon et Danny Boone, il essuie la salive sur son cou comme ça en lisant à Astérix. Et ça va partir en prod. Prochain Oscar, prochain César. Ouais. Allez, à demain, si vous le voulez bien.
Et sur le coup, merci Arnaud. Demain, évidemment. Demain, ouais. Et puis tout de suite, ne bougez pas sur RMC et BFM TV. C'est le face-à-face d'Aïla Latrousse qui reçoit donc le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Merci d'écouter RMC. Il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Un Grenelle sur la violence des mineurs. Voilà l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Discours de Gabriel Attal ce matin à Viry-Châtillon, façon Grenelle, pour mettre fin au processus de décivilisation. Voilà les mots du président dans la foulée des affaires de Viry, Romain, Montpellier ou encore Grande-Synthe. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ordonne l'instauration d'un couvre-feu à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, pour les mineurs pendant 2 mois pour lutter contre une flambée de la délinquance sur place. Une nouvelle opération Place Net y a été lancée. Conférence polémique de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine à Lille. Elle était prévue à l'université, mais elle a été annulée. Les raisons de sécurité sont avancées. Les Insoumis disent avoir trouvé une salle pour cette conférence, pour qu'elle se tienne bien. Ce sont des informations de RMC. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dénonce des relents anti-sionistes. Le foot après Paris. C'est Marseille et Lille qui jouent leur avenir européen ce soir. Marseille face à Benfica en Ligue Europa sur RMC. Les Marseillais ont perdu 2-1 à l'aller chez les Portugais, le match à 21h. Et un peu plus tôt, 18h45, Lille contre Aston Villa, Conference League sur RMC. Et en clair, sur RMC Découverte, les Lillois ont également perdu 2-1 au match aller chez les Anglais.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Neila Latrousse.
8h32 sur BFM TV et RMC. Mon invité, le président de la région Hauts-de-France. Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. On va parler de la délinquance des jeunes, de cette hyper-violence débridée avec encore un jeune homme battu à mort. Cette fois dans votre région, Philippe, 22 ans, animateur dans un centre socio-éducatif, passé à tabac à Grande-Synthe, décédé des suites de ses blessures. Deux mineurs ont été placés en garde à vue, 15 ans, 14 ans, c'est très jeune. Et 3 autres mineurs avaient été mis en examen pour assassinat dans une autre affaire. La France s'en souvient, celle de Chemseddine à Viry-Châtillon, collégien de 15 ans, lui aussi passé à tabac. Xavier Bertrand, Gabriel Attal sera ce matin à Viry-Châtillon, où il doit notamment annoncer un Grenelle sur la violence des mineurs, une grande concertation avec les familles, avec les maires, les associations, les professeurs et les forces politiques. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour venir à bout de ce fléau ?
Non, c'est pas ce qu'il faut. Si on veut mettre un terme à ces massacres, parce que ce jeune à Grande-Synthe, visiblement, a été massacré, c'est qu'il faut aussi des sanctions. Il faut des réponses qui soient dures. Bien évidemment, ça ne suffira pas. Il y a tout un travail de fond à mener, mais il faut aujourd'hui qu'on mette un terme à cette impunité en France.
Quand vous dites des sanctions, vous parlez de sanctions pénales, de sanctions éducatives, parce que tout cela est envisagé.
Attendons la fin de l'enquête. Mais ceux qui se sont rendus coupables de ce massacre devront répondre de leurs actes, et ce, quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge. Cela fait maintenant des années que je porte cette idée que l'excuse de minorité ne peut plus être appliquée systématiquement.
Oui, peut-être pour expliquer pour nos téléspectateurs et nos auditeurs,
l'excuse de minorité, c'est
ce qu'est l'excuse de minorité. Il y a deux choses. Il y a le fait que en dessous de 13 ans, il y a une présomption de non-discernement. Donc, en dessous de 13 ans, on considère que le jeune ne sait pas ce qu'il fait. Et puis, entre 13 et 18 ans, eh bien, les peines sont allégées. Vous souhaitez, pour bien comprendre, que les jeunes soient traités, jugés, sanctionnés comme des adultes.
Qu'ils soient comme des adultes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça n'est plus le droit des mineurs, la justice des mineurs, comme on l'imaginait en 1948. On est en 2024 aujourd'hui. Mais vous savez, ce problème, il est à la fois sur les mineurs, mais il est plus globalement. Aujourd'hui, la réponse pénale n'est pas suffisamment rapide, elle n'est pas suffisamment forte. Il y a trop d'impunité dans notre pays. Il y a beaucoup trop d'impunité. Et on peut casser cela. Vous savez, le code pénal en lui-même, il n'est pas laxiste, mais c'est l'application du code pénal qui doit être rapide et qui doit être ferme. Je porte depuis des années également cette idée d'avoir à nouveau des peines minimums. Il y a des peines maximum en France, il faut des peines minimums pour casser cette impunité. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? Vous avez parlé d'un Grenelle. Monsieur Macron est au pouvoir depuis 7 années. 7 années qu'il est au pouvoir. Et même si Monsieur Attal, aujourd'hui, utilise les mots pour qualifier les choses, mais les actes, des enseignants sur le terrain, des élus sur le terrain, des éducateurs me disent, même quand on entend sur un plateau de télévision les mots qui sont des mots justes, ce que l'on veut, c'est des actes. On veut justement pouvoir faire face et on veut surtout faire reculer cette barbarie.
Xavier Bertrand, pour revenir sur l'excuse de minorité, donc vous dites que les jeunes d'aujourd'hui soient jugés comme des adultes. Aujourd'hui, cette excuse de minorité, elle peut être levée par les juges. Exceptionnellement, ils peuvent motiver le fait de juger un jeune comme un adulte, mais ce n'est pas fait. Qu'est-ce qui vous fait croire que si l'exception devient la règle, eh bien, il y aura davantage de condamnations fermes pour ceux qui se rendent coupables de meurtre ou d'assassinat?
Eh bien, vous devez en faire la démonstration. C'est qu'il n'y aura pas la possibilité de la mettre de côté. Voilà, tout simplement.
Mais il y a une individualisation des peines et les juges ne sont pas obligés de choisir la peine maximale.
Oui, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je le dis, l'excuse de minorité est une chose et les peines minimums, notamment pour la récidive ou pour des cas les plus graves, doivent bien évidemment s'imposer. Mais encore une fois, ce que je dis là ne demande pas de réforme constitutionnelle.
Pour les délinquants ou pour la récidive, pour préciser.
Pour les deux. Moi, j'étais partisan, vous le savez, sous Nicolas Sarkozy, ça avait aussitôt été écarté après 2012. Il y avait des peines planchers qui avaient fait preuve de leur efficacité. Et pour les mineurs, l'excuse de minorité ne doit plus être aujourd'hui la règle.
Xavier Bertrand, vous proposiez aussi en 2021, candidat à la présidentielle, que les jeunes les plus dangereux, les mineurs les plus dangereux, soient encadrés de façon militaire. Est-ce que vous le souhaitez toujours?
Bien sûr.
C'est les centres éducatifs fermés.
Mais bien sûr. Mais les centres éducatifs fermés, il n'y en a pas partout.
Oui.
Encore une fois, aujourd'hui, vous avez un problème de réponse pénale. La police essaye de faire le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, son métier. D'ailleurs, regardez, on ne sait pas quelle sera la suite de l'enquête. Il y a eu tout de suite des interpellations. Bien.
14 et 15 ans, je le répète.
Derrière cela, c'est la réponse pénale. Vous prenez la question des émeutes. Des émeutes de juin dernier. J'avais écrit au garde des Sceaux pour savoir exactement ce qu'il en était, quelles avaient été les suites. Mmh. Il y avait un peu plus de 5500 personnes qui avaient été interpellées. Il y en avait 1700 qui avaient fait l'objet d'une condamnation pénale. Mmh. Mais derrière, quand vous prenez sur l'ensemble, 20% seulement ont purgé normalement une peine de prison. Mmh. 20% seulement. Tous les actes ne nécessitaient pas d'aller en prison. Mais non seulement. Vous avez aujourd'hui des difficultés parce qu'il y a un numerus clausus qui ne dit pas son nom pour la prison.
C'est-à-dire ?
Il n'y a pas assez de places de prison. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut des places de prison. Moi-même, élu local, dans le Cinquantinois, j'avais fait des propositions pour accueillir une prison. Jamais eu de réponse positive. Jamais. On nous dit les élus n'en veulent pas. Ça n'est pas vrai. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est que l'alternative à la prison n'existe pas suffisamment fortement aujourd'hui en France.
Quelle serait l'alternative pour les jeunes? C'est les centres éducatifs fermés.
Les centres éducatifs fermés, ça c'est la première des choses. Et puis même.
Des bracelets électroniques pour les mineurs.
Des bracelets électroniques. Mais allons jusqu'au bout. Les travaux d'intérêt général.
Ouais.
Il ne s'agit pas d'appliquer des travaux d'intérêt général à ceux qui se rendent coupables.
Il y a des travaux d'intérêt éducatif qui ont été annoncés par Gabriel Attal en janvier à l'Assemblée nationale, notamment.
Cela fait maintenant 4 ans, j'ai proposé au titre du Conseil régional des Hauts-de-France d'accueillir des TIG, justement, au sein du Conseil régional. Vous savez combien la justice m'en a envoyé?
Dites-moi.
5. En 5 ans.
TIG, travaux d'intérêt général.
Maintenant, il y a avec le procureur d'Amiens, où on va essayer autre chose, le travail non rémunéré. Mais en 5 ans, j'avais interpellé le garde des Sceaux, il n'y a pas de suite. Il y en a marre des discours, il y en a marre des actes. Moi, ce que je propose en tant qu'élu local, parce que je pense qu'on doit trouver des solutions partout, c'est des solutions et on ne me les donne pas. C'est ça aussi le fond du problème.
Xavier Bertrand, il y a quelques instants, vous évoquiez les émeutes de l'été dernier. Quand on regarde les chiffres, que ce soit des condamnations des mineurs ou dans l'ensemble, ou celles précisément au moment des émeutes, il y a aussi un fait majeur qui apparaît. 87% des 54 000 condamnations de mineurs par an, ce sont des jeunes garçons. 91% des condamnés pendant les émeutes, ce sont des hommes de moins de 25 ans. Est-ce qu'il y a une question sociétal, éducatif, qui doit aussi nous interroger sur la façon dont on élève aujourd'hui des jeunes garçons.
Bien sûr, mais je ne veux pas que la question sociétale l'emporte sur la réponse qui doit être une réponse pénale, une réponse d'autorité et une réponse de sanction. Mais bien évidemment, vous devez vous poser toutes ces questions, mais encore une fois, il y a des réponses qui existent. Il y a la question de l'autorité à l'école. Ouais. Il y a l'autorité dans la société, il y a la question aussi de la responsabilité parentale. Ouais. Vous savez, l'éducation, c'est l'affaire des parents avant que ce soit l'affaire de l'école.
Il faut responsabiliser les parents, taper au portefeuille pour ceux qui,
pour certains d'entre eux,
ne sont pas assez impliqués.
Mais pour certains d'entre eux, mais ce sont aussi des idées que nous avons portées à une époque.
Oui.
Notamment la suspension des allocations familiales quand les enfants n'allaient pas à l'école.
Qui avait été votée, notamment lorsque vous étiez patron de la droite française.
J'avais appuyé cette proposition qui, à l'époque, était celle d'Éric Ciotti, député. Sauf que quand on l'avait votée, les enfants avaient retrouvé le chemin de l'école. Et c'est pas le hasard, c'est tout simplement parce qu'il y avait une forme de dissuasion avec cette sanction. Vous savez, quand il y a la certitude de la sanction, il y a un effet de dissuasion, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Et puis vous avez aussi une autre question, c'est celle des réseaux sociaux.
Ouais.
Les réseaux sociaux qui sont également ce défouloir de haine, de violence.
Qu'est-ce qu'on en fait, Xavier Bertrand ?
De violence pour libérer. Moi, je suis pour et je vais porter ce combat pour que l'on supprime l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous pouvez menacer quelqu'un, vous pouvez l'injurier, vous pouvez le diffamer, vous pouvez le menacer de mort, mais derrière la sanction sera très difficile à appliquer et seulement pour les cas les plus graves. Sur un sujet comme celui-ci, ça ne me dérange pas qu'on puisse utiliser un pseudo. Mais l'anonymat, il faut y mettre un terme.
Xavier Bertrand, je le disais, dans quelques minutes, à 10h, Gabriel Attal est attendu à Viry-Châtillon, 100 jours après sa nomination à Matignon. Il sera d'ailleurs ce soir l'invité exceptionnel de BFM TV, où il sera interrogé sur l'école, la sécurité, le pouvoir d'achat, évidemment, et on va y revenir, Xavier Bertrand. Mais d'abord, une question toute simple, est-ce que c'est un bon Premier ministre, Gabriel Attal ?
Posez la question aux Français, vous aurez la réponse. Il pense comme moi. Un Premier ministre qui n'a pas de majorité absolue.
Oui.
Qu'est-ce qu'il peut faire ? Des émissions, prononcer des discours. Il n'y a pas, et c'est le péché originel de ce quinquennat, Monsieur Macron n'a pas voulu avoir une majorité absolue à l'Assemblée, ce que les Français lui ont refusé.
Vous dites poser la question aux Français, nous quand on leur pose la question, le sondage est là pour BFM TV, ils trouvent Gabriel Attal compétent, dynamique, audacieux, courageux et sympathique. Est-ce que vous
efficace,
aussi vous lui trouvez ces qualités ?
Efficace à combien de pourcents ?
Efficace, ils sont quelques-uns à dire, il est encore trop tôt pour juger de son action au bout de 100 jours.
Ouais. Vous savez, les Français, ce qu'ils veulent, c'est que leur responsable politique soit efficace.
Ouais. Et vous ne trouvez pas efficace, vous,
aujourd'hui ? Mais attendez, on parle de la santé un court instant ?
On en parle.
Ce soir, vous allez l'interpeller sur les questions de santé ?
C'est-à-dire ?
Les questions de santé, aujourd'hui, la pénurie de médicaments dans notre pays.
Ouais.
On a eu des annonces sur des annonces, des plans sur des plans de la part des ministres de la Santé. Allez dans une pharmacie, vous avez un enfant en bas âge ? Moi, c'est aussi mon cas.
C'est mon cas
et
aussi.
Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est effectivement la chasse au trésor pour avoir certains médicaments. C'est une honte.
Mais c'est la responsabilité de Gabriel Attal, c'est de sa faute ? Mais
attendez, il est au pouvoir ou pas ? Alors, il est au pouvoir,
jours.
Il doit le régler. Il y a des époques où il n'y a pas eu de pénurie de médicaments. Ouais. Donc, aujourd'hui, sur la pénurie de médicaments, ils font quoi ? Et il y a un sujet qui risque d'aggraver la situation.
Ouais.
Vous avez Biogarant.
Oui.
Biogarant, c'est une entreprise française.
Oui.
Qui dépend du groupe Servier, ça y est, le groupe Servier, qui avait été bien connu. Je m'étais opposé à eux sur la question du médiateur parce qu'ils avaient vendu ce poison.
Bon. Ouais.
Biogarant est aujourd'hui en vente. Produit justement des génériques.
Oui.
Vous avez aujourd'hui deux acheteurs potentiels, des groupes indiens.
Mais quelle est
votre crainte ? Ça veut dire que si ce sont des Indiens qui achètent, il y a tous les risques que cette production de génériques soit faite ailleurs qu'en France. Il y a des emplois à la clé et il y a ensuite de la disponibilité des médicaments. Je demande au gouvernement de s'opposer à cette vente, ils en ont les moyens, tant qu'on n'aura pas un acheteur européen. Deuxième sujet, la taxe lapin.
Ça, je passais à Bruno Le Maire. Taxe lapin, parce qu'il faut des recettes et on voit aussi la question des déficits et des comptes publics, effectivement, un certain nombre de mesures sur la santé, le doublement de la franchise médicale, de la franchise sur les boîtes de médicaments et la taxe lapin,
tiens.
5 euros pour ceux qui n'honoreraient pas le rendez-vous chez le médecin.
5 euros.
Ça vous choque ?
La consultation d'un généraliste est à 26,50.
Ouais. Oui.
Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage ? Qu'elle devrait être plus importante, cette taxe lapin ?
Vous trouvez que 5 euros, ce n'est pas assez ?
Évidemment.
Oui.
Le médecin, bien évidemment, il ne prononcera, il produira pas d'acte.
Ouais.
Mais en attendant, c'est un rendez-vous qui n'existe pas pour les autres.
Elle doit être de combien,
et pour
Xavier Bertrand, cette taxe ?
Pour certains, elle ne sera pas assez dissuasive.
Mais c'est-à-dire, il faut qu'elle soit équivalente à la consultation ?
Poser la question au médecin plutôt que d'avoir imposé cette décision sans concertation avec les médecins. Mais 5 euros, pour moi, ça n'est pas suffisant. Puis il y a aussi autre chose. Le Premier ministre, parce que c'est lui qui a annoncé, c'est même pas le ministre de la Santé.
Ouais.
Ils disent, faut moins de formalités, moins de paperasse pour les médecins. Mais c'est aux médecins de gérer ça. Mais certainement pas. C'est à la sécurité sociale de gérer cette taxe lapin. Et en même temps, sur les questions de santé, allons jusqu'au bout des choses. Le gouvernement est en train de programmer la mort des cliniques privées. Des cliniques privées. Vous savez, en France, le système français repose sur une partie publique et une partie privée. Il y a l'hôpital et il y a les cliniques privées. Ils ont décidé d'augmenter...
Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous avez été ministre de la Santé, Xavier Bertrand.
Merci. Ils ont décidé d'augmenter les tarifs de 0,3%. Quand on sait ce qu'est justement l'inflation aujourd'hui, ça veut dire que des services vont fermer. Et après, on va se plaindre qu'il y a trop de difficultés à l'hôpital public. Les infirmiers libéraux sont aujourd'hui dans une situation des plus précaires qui soient. Sur ces sujets-là, sur la santé, marre des discours, marre des grandes déclarations, il nous faut des actes.
Je rappelais que vous étiez ministre de la Santé, vous avez été aussi ministre du Travail et vous avez fait des classes moyennes l'un de votre credo. Il se trouve que Gabriel Attal en fait aussi l'un des marqueurs de son action politique. Est-ce qu'il a raison de vouloir améliorer la vie des classes moyennes et est-ce que vous percevez dans son discours une volonté ou en tout cas une compréhension des enjeux que vous aviez posés sur la table au cours des précédents mois?
Mais comprendre, c'est la moindre des choses quand on a du pouvoir. Oui. Mais il faut faire, il faut délivrer. Et même
pour l'instant, il y a un cap qui est fixé, c'est-à-dire la lutte contre la fraude, la désmicardisation,
quand vous voyez
les 2 milliards de baisse d'impôts.
Quand vous voyez la situation du pays, vous n'avez pas un jour à perdre. Vous n'avez pas un jour à perdre. Aujourd'hui, quand vous êtes au pouvoir, vous devez agir. Dans ma région, qu'est-ce qui touche les classes moyennes? Le pouvoir d'achat.
Oui.
J'aide ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. 240 euros que je leur verse.
J'aide il faut des mesures d'urgence sur l'essence, par exemple.
J'aide les classes moyennes, notamment quand les enfants doivent passer le permis de conduire. Oui. Le permis de conduire est devenu un impôt qui ne dit pas son nom. Oui. Je les aide. Et j'aide les classes moyennes, c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent. J'aide aussi pour la garde d'enfants. L'allocation de rentrée scolaire dans les Hauts-de-France, elle est versée à tout le monde, quels que soient les revenus.
Vous demandez à l'État de reprendre vos idées pour... soulager.
Ça fait un moment justement que je propose à l'État, mais bien évidemment, les discours leur suffisent. Les seules choses qui intéressent les Français, et quand vous voyez l'exaspération qui monte aujourd'hui, ce sont des résultats, c'est qu'on change leur vie. Je pense qu'au gouvernement, ils ont renoncé à changer la vie des Français. Ils sont aujourd'hui certainement fatigués, mais en tout cas, ils n'ont plus envie de changer la vie des Français. Prenez notamment sur la classe moyenne, regardez l'interview aujourd'hui du patron de Michelin. Sur la question du salaire décent, qui dit que le SMIC n'est plus un salaire décent. Ouais. Et il a raison.
Et qui lui décide d'augmenter de son côté les salaires dans le monde.
Au gouvernement, notamment sur le carburant. En septembre dernier, on me l'a reproché. Ouais. J'avais indiqué que l'augmentation du prix du carburant était une bonne affaire pour l'État, parce qu'à chaque fois que le prix du baril augmente, c'est le cas aujourd'hui, les taxes augmentent. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il attend pour convoquer tous les distributeurs, tous, et de leur imposer ce que Total a décidé de faire? C'est-à-dire que le prix du carburant est plafonné aujourd'hui à 1,99€ chez Total. Qu'est-ce qu'il attend?
Deuxième
Il attend qu'il y ait aujourd'hui une montée en puissance. J'ai dit, attendez. Monsieur Attal s'occupe de tout comme Monsieur Macron.
Oui.
Alors dans ces cas-là, posez-lui la question ce soir. Les distributeurs, le prix coûtant, qu'est-ce qu'ils attendent pour l'imposer à tout le monde? Ce que Total fait, tout le monde doit le faire.
J'en viens à Xavier Bertrand, donc à la conférence de la France Insoumise qui aurait dû avoir lieu à l'université Lille 3 ce soir. Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, qui est sur la liste insoumise aux européennes, devait prendre la parole. Cette conférence a été annulée par la présidence de l'université au nom notamment de la sécurité des personnes et des biens. Vous aviez appelé à l'annulation de cette conférence et Jean-Luc Mélenchon vous a pris à partie hier lors d'un meeting pas loin à Roubaix. Écoutez.
Pour moi, l'université, c'est un monument. C'est un grand moment d'y être. Alors, quelle tristesse de voir des petits chafouinages misérables. Le président de la région, la main sur le cœur, disant « Il ne faut pas laisser les antisémites entrer ni à Lille, ni nulle part dans le pays, dans les universités françaises. » Tu es bête. Tu es borné. Tu es obtus.
Qu'est-ce que vous lui répondez, Xavier Bertrand?
Bête, il a dit. Obtus et borné, c'est ça?
Ouais.
Alors, je suis un gaulliste bête. Je suis un républicain borné. Et je suis, moi, un universaliste obtus. Et je l'assume. Et je l'assume.
Vous souhaitez réduire au silence Jean-Luc Mélenchon, comme il le dit?
Il était réduit au silence hier? Certainement pas. Ouais. Il a tenu ce qui est un meeting politique. Ouais. Mais tenir un meeting politique dans une université, je suis désolé, ça n'a pas sa place. Et le président de l'université a eu raison.
C'était une conférence, c'était pas un meeting sur le papier.
Attendez, avec en plus une association qui nie l'existence d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance internationale de l'État d'Israël et il la niait. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec la France Insoumise...
Vous évoquez le logo de cette association.
Le logo de cette association qui nie l'existence d'Israël a même existé. Cet antisionisme est si proche de l'antisémitisme. Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, il a basculé depuis longtemps. Moi, je suis un républicain, il ne l'est plus.
Mais on est dans un état de droit, vous savez, Bertrand, il y a la légalité ou l'illégalité. Est-ce que ce que fait cette association est légal ou illégal? Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon tombe sous le coup de la loi Guesso ou non?
S'il prononce, s'il tient des propos antisémites, il tombe sous le coup de la loi et il doit être condamné. Il n'a pas été empêché de s'exprimer. Hier soir, il a tenu son meeting. Oui. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une confusion des genres. Et d'ailleurs, je vois que le président de l'université, il était un peu seul. Vous avez entendu la ministre de l'Enseignement supérieur, vous, sur ce dossier? Absolument pas. Et donc, encore une fois, faut arrêter de détourner les yeux. Il faut arrêter aujourd'hui de faire du pas de vague. Quand il y a des conférences comme celle-ci, dans le contexte dans lequel on est, qui sont aussi sur un fond d'antisémitisme qu'il faut combattre dans notre pays, alors je suis désolé, on doit dire stop.
L'antisémitisme, c'est une question de droit, Xavier Bertrand. Je vous repose ma question. Si l'activité de cette association qui est agréée en préfecture est légale, pourquoi interdire une conférence de cette association?
Parce que ça n'a pas à avoir lieu dans une université française, très clairement.
Ça veut dire
et
que
si ses propos
ce soir,
sont
par exemple,
caractérisés de façon antisémite, oui, il tombe sous le coup de la loi.
Juste pour bien comprendre, ça veut dire que la conférence
que
qui est annoncée ce soir à Lille par les Insoumis dans un autre lieu, vous n'en demandez pas l'annulation.
S'il y a un risque de trouble à l'ordre public, le droit permet justement de l'interdire.
Donc, vous envisagez de demander l'interdiction du meeting de ce soir,
aujourd'hui,
de Jean-Luc Mélenchon ?
Le représentant de l'État, mais s'il y a le moindre trouble à l'ordre public, la réponse est oui. Mais à l'université, ça n'avait pas lieu d'être. Quelle honte d'organiser cela à l'université.
Est-ce que vous demandez la dissolution de l'association qui organise cette conférence,
puisque vous dites
qu'elle nie l'État l'existence de l'État d'Israël.
4 fois, 5 fois, 10 fois. Je vous l'ai dit, s'il y a des propos antisémites, ils tombent sous le coup de la loi.
Non, mais si l'association nie l'existence de l'État d'Israël, ça tombe sous le coup de la loi, et dans ce cas-là, vous en demandez la dissolution. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'elle a le droit d'organiser des conférences.
Le droit d'organiser des conférences, je suis désolé, dans le contexte dans lequel on est, l'antisionisme, c'est aussi le fauné de l'antisémitisme. On décide de combattre l'antisémitisme, oui ou non? Pour moi, la réponse est oui. Chaque jour, à chaque moment.
Les Insoumis, d'ailleurs, donc, tiendront cette conférence, ils annoncent ailleurs à Lille. Il y a un sénateur, les Républicains, Stéphane Le Rudulier, qui demande leur dissolution. Est-ce que vous soutenez son action? Il demande la dissolution de la France Insoumise.
Je combats la France Insoumise,
oui,
et je continuerai à la combattre. Et dans ces élections européennes, je combats tous les extrêmes.
Oui.
Et vous savez, ces élections européennes, aujourd'hui, elles sont mortes. Ce sont plus des élections européennes.
Pourquoi?
Monsieur Macron aura réussi l'exploit de transformer ça en référendum pour ou contre Macron. Voilà ce qui s'est passé. Depuis le début, en ciblant notamment les extrêmes et surtout en ciblant le Rassemblement national, on s'aperçoit qu'il y a maintenant un référendum pour ou contre Macron. Et vous connaissez la réponse. Parce qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui qui sont mécontents du président de la République et mécontents de ce gouvernement. C'est terrible que l'enjeu européen ait disparu. Hier, dans cette émission, Apolline de Malherbe n'a posé qu'une question sur l'Europe à M. Bardella. Tout le reste, c'était sur la politique nationale. Vous le voyez, c'est devenu
parce
un référendum pour ou contre
beaucoup
Macron.
Beaucoup de sujets
en faisant
de politique
aujourd'hui
nationale,
un tour de l'élection présidentielle. Mais en tout état de cause, je vous le dis,
sur les élections
aujourd'hui,
européennes.
Le Front National n'a aucune solution, aucune. Et moi, je continuerai à apporter des solutions concrètes, sérieuses, pour encore une fois changer, améliorer la vie des Français.
Merci Xavier Bertrand. Les questions européennes, il en sera question ce soir avec Gabriel Attal, invité exceptionnel de BFM TV. Merci
d'être
venu.
Mais vous ne posez pas la question au Front National sur ces propositions.
D'être venu à ce micro ce matin, Xavier Bertrand. Bonne journée à vous, bonne journée à tous.